Chapitre 21. Une réponse satisfaisante. Soudain, Turbor éclata d'un rire franc et massif, qui se répercuta à travers toute la salle. Au bord de l'étouffement, il finit par s'arrêter et secoua faiblement la tête.
« Par la galaxie ! Ça peut durer toute la nuit, votre histoire ! Un vrai jeu de massacre ! Ah, pour s'amuser, on s'amuse ! Mais tout cela ne nous mène nulle part. Par l'espace, qui vous dit que toutes les planètes n'appartiennent pas à la seconde fondation? Peut-être qu'ils n'ont pas qu'une seule planète, mais qu'ils ont disséminé judicieusement quelques hommes de confiance à travers toute la galaxie. Et quelle importance, finalement, puisque Darrell nous affirme qu'il a trouvé la parade idéale. »
Darrell eut un sourire sans gaieté. « La parade idéale ne suffit pas à Turbor. D'abord, mon brouilleur psychostatique est loin d'être parfait, et même s'il l'était, nous n'en serions guère plus avancés. Nous n'allons pas pouvoir rester comme ça éternellement sur le qui-vive, à attendre un ennemi inconnu. Savoir comment remporter la victoire est une chose, encore faut-il savoir qui nous devons terrasser. Or, l'ennemi a établi sa résidence sur un monde bien précis. Cela, nous le savons. « Venez-en au fait, » dit Antor d'un ton las. « En quoi consistent vos renseignements ?»« Arcadia m'a fait parvenir un message. » »« J'étais aveugle jusque-là. Maintenant, je m'en rends compte. » »« Ce message m'a littéralement ouvert les yeux. » »« Sans cela, je serais certainement passé à côté de tout. » »« Pourtant, c'était un message... » d'une simplicité imparable. Un cercle, ça n'a pas de bout. Alors, ça vous dit quelque chose ?
Non, dit Antor buté. Et il parlait évidemment pour tout le monde.
Un cercle, ça n'a pas de bout. Répéta Mun, perdu dans ses pensées, le front barré de rides. « Eh bien, » dit Darrell, qui visiblement s'impatientait. « Pour moi, c'était parfaitement clair. Quel est le seul fait absolument certain que nous connaissions sur la seconde fondation ? Je vais vous le dire. Nous savons que Harry Seldon en avait désigné l'emplacement comme étant à l'autre bout de la galaxie. » Omir Mun nous a expliqué pourquoi il pensait que Seldon avait menti sciemment et que cette fondation-là n'existait pas. Selon Peleas Antor, Seldon avait dit la vérité à ce propos, elle existait bel et bien, mais avait menti quant à son emplacement. Quant à moi, je vous dis que Harry Seldon nous a dit la stricte vérité sur toute la ligne. Mais alors allez-vous me dire en quoi consiste l'autre bout? La galaxie est un objet aplati, de forme lenticulaire. La section transversale de cette lentille donne un cercle. Et un cercle, par définition, ça n'a pas de bout, comme Arcadia a bien fini par s'en rendre compte. Nous, les gens de la première fondation, nous nous trouvons sur Terminus, à la périphérie de ce cercle. Et maintenant, suivez-le, ce cercle. Suivez-le. Encore, encore. Aussi longtemps que vous voudrez. Vous n'en verrez jamais le bout. Au bout d'un moment, vous finirez simplement par revenir à votre point de départ. Et c'est précisément là que vous trouverez la seconde fondation.
Là ? Répéta Antor. Vous voulez dire...
ici même ?
Oui, ici même.
S'exclama Darrell avec force.
« Où donc voudriez-vous qu'elle soit ?
Vous avez dit vous-même que si les membres de la seconde fondation étaient les gardiens du plan Seldon, il serait peu vraisemblable qu'ils soient installés à l'autre bout de la galaxie, puisque, si tel était le cas, ils s'y retrouveraient dans un parfait isolement. Vous pensiez qu'une distance de 50 parsecs était plus acceptable ? Eh bien, je prétends que c'est encore trop loin. Bien mieux. » Aucune distance n'est admissible. Et où se trouverait-il le plus en sécurité ?
Qui penserait aller chercher justement ici? C'est toujours la même histoire, en fait. Plus une cachette est facile à trouver, moins on pense à aller y regarder. Pourquoi pensez-vous que ce pauvre Ebling Miss a été à ce point surpris et désarçonné en découvrant l'emplacement de la seconde fondation? Il cherchait désespérément à la trouver, cette fondation cachée, car il voulait à tout prix l'avertir de l'arrivée imminente du mulet. Et tout cela pour apprendre que ledit mulet avait déjà conquis les deux fondations dans la foulée. Pourquoi le mulet lui-même a-t-il finalement échoué dans sa quête? C'était fatal. Lorsqu'on court après un ennemi insaisissable, on ne pense guère à le chercher parmi les adversaires qu'on a déjà conquis. Si bien que les maîtres psychiques pouvaient à loisir prendre leur disposition pour arrêter le mulet. Et ils ont effectivement réussi. C'est d'une simplicité affolante, en fait. Nous sommes là, à comploter, persuadés que nous nous sommes entourés du secret le plus absolu, alors que depuis le début, nous sommes au cœur de la forteresse ennemie. C'est à mourir de rire.
Antor ne se départit pas de son expression sceptique. Vous croyez honnêtement à cette théorie, docteur Darrell?
J'y crois en toute sincérité.
Alors un de nos voisins, un passant que nous croisons dans la rue, pourrait être un surhomme de la seconde fondation dont l'esprit est braqué sur le nôtre, auscultant nos pensées?
Exactement.
Et pendant tout ce temps, nous avons pu vaquer à nos occupations, sans être jamais mentalement maltraités.
Maltraités? Qui vous dit que nous n'avons pas été maltraités comme vous dites? N'avez-vous pas démontré vous-même que Mun avait été manipulé? Qui vous prouve que c'est de notre propre volonté que nous l'avons envoyé sur Kalgan? Ou que c'est en toute liberté qu'Arcadia a surpris nos conversations et est montée à bord de son vaisseau? Moi, je dirais plutôt que nous avons dû être maltraités du début à la fin. Et après tout, ils n'avaient pas vraiment besoin d'en faire plus. Ils ont davantage intérêt à nous égarer sur une fausse piste qu'à entraver directement notre action, vous savez.
Antor se plongea dans une méditation profonde, dont il émergea insatisfait. Tout cela ne me plaît guère. Votre brouilleur psychostatique, à quoi voulez-vous que ça nous serve en fin de compte? Nous n'allons tout de même pas rester enfermés à vie dans nos maisons, terrorisés à l'idée de sortir et de nous livrer à l'ennemi par ce simple geste, maintenant que nous croyons savoir ce que nous savons. À moins que vous ne puissiez construire un petit brouilleur portatif pour chaque habitant de la galaxie.
Sans doute.
Mais nous ne sommes pas complètement désarmés, Antor. Ces hommes de la seconde fondation possèdent un sens spécial qui nous manque. C'est leur force, sans doute. Mais c'est aussi leur faiblesse. Citez-moi, par exemple, un moyen d'attaque qui soit efficace contre un homme normal et inopérant pour un aveugle.
Certainement, s'empressa de répondre Mun. De la lumière dans les yeux.
Exactement, renchérit Darrell. Il suffit de l'aveugler avec une bonne grosse lampe torche.
Eh bien, et après?
Demanda Turbor.
L'analogie est pourtant claire. Je possède un générateur de champ psychostatique. Il produit artificiellement un effet électromagnétique susceptible d'impressionner le cerveau d'un homme de la seconde fondation comme un rayon de lumière excite les cellules de notre rétine. Mais le brouilleur psychostatique opère à la manière d'un kaléidoscope. Son émission évolue constamment avec une vitesse que le cerveau récepteur ne peut suivre. Considérez maintenant une lumière clignotante, de celle qui vous cause immanquablement des maux de tête lorsqu'elle se prolonge pendant un certain temps. Maintenant, donnez à cette lumière ou à ce champ magnétique une intensité aveuglante. Vous provoquerez alors chez le sujet une sensation douloureuse, insupportable. Mais cela n'est valable que pour ceux qui sont dotés du sens approprié. Pas pour les aveugles, qu'il s'agisse d'aveugles sur le plan physique ou sur le plan mental.
Vraiment?
Demanda Antor avec un début d'enthousiasme.
En avez-vous fait l'expérience?
Et sur qui? Bien sûr que non, voyons, je n'ai pas encore pu l'essayer, mais ça marchera, vous verrez.
Eh bien alors, où se trouvent donc les commandes du générateur de champ qui protège cette maison? Je dois dire que je serais curieux de voir ça.
Tenez.
Le docteur Darrell produisit alors un objet minuscule. Personne jusque-là ne s'était même aperçu qu'il avait quelque chose dans sa poche. Il lança avec désinvolture le petit cylindre garni de boutons à son interlocuteur. Antor l'examina avec soin et haussa les épaules.
« Bon, je ne suis pas plus avancé, en fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je touche là-dessus, Darrell? Je ne voudrais pas couper le générateur sans le faire exprès et nous mettre à la merci de nos ennemis. »
« Pas de danger, »
dit Darrell avec indifférence. « Les boutons sont bloqués. »
En guise de démonstration, il tenta de pousser un interrupteur qui refusa effectivement de bouger.
« Et cette molette-là, elle sert à quoi ?»« Elle permet de varier l'amplitude de l'émission. » »« Et celle-ci contrôle l'intensité. » »« C'est à cette dernière que je faisais allusion. » »«
Ah oui ?»« Je peux ?»
demanda Antor. Tout le monde les entourait désormais.
« Pourquoi pas ?»
répondit Darrell. « Nous ne risquons rien. »
Lentement, esquissant une grimace, Antor tourna le bouton dans un sens, puis dans l'autre. Turbor grinçait des dents, tandis que Mun clignait rapidement des paupières. On eût dit qu'il s'efforçait d'aiguiser les organes sensoriels inadéquats dont les avait pourvus la nature pour tenter de percevoir malgré tout cette impulsion immatérielle qui ne pouvait les affecter.
Pour finir, Antor haussa les épaules et lança le petit appareil sur les genoux de Darrell.
Bon, je suppose que nous devons vous croire sur parole.
Mais il est difficile d'imaginer qu'il se passait quelque chose lorsque je tournais ce bouton.
Darrell esquissa un sourire crispé.
Naturellement, Pelléas Antor. Celui-là, c'était un faux. Mais j'en ai un autre.
Écartant un pan de sa veste, il se saisit prestement d'une autre télécommande, rigoureusement semblable, et qui se trouvait accrochée à sa ceinture.
Regardez, dit-il.
Et d'un seul geste, il tourna le bouton d'intensité au maximum. Avec un cri inhumain, Pelléas Antor s'écroula sur le sol. Il se roulait frénétiquement, le visage livide, ses doigts labourant convulsivement ses cheveux. Mun recula précipitamment pour ne pas entrer en contact avec le corps convulsé. Ses yeux reflétaient une indescriptible horreur. Semik et Turbor semblaient muets en statues de plâtre. Ils en avaient en tout cas la blancheur et la rigidité. Darrell, le visage sombre, ramena le bouton à zéro. Antor remua faiblement une ou deux fois et demeura immobile. Mais il vivait encore. Sa poitrine se soulevait spasmodiquement au rythme de sa respiration.
« Portons-le sur le canapé, »
dit Darrell en saisissant la tête du jeune homme.
« Aidez-moi !»
Turbor saisit les pieds. Ils eurent l'impression de soulever un sac de sable. Pourtant, au bout de quelques minutes, la respiration devint plus régulière et les paupières d'Antor palpitèrent. Son visage avait pris une horrible teinte cireuse. Ses cheveux et son corps étaient inondés de transpiration et sa voix, lorsqu'il parla, était brisée et méconnaissable.
« Non !»
murmura-t-il.
« Non ! Arrêtez ! Vous ne savez pas ! Vous ne savez pas ! Oh !»
Une longue plainte modulée s'échappa de ses lèvres.
« Nous arrêterons si vous nous dites la vérité, » dit Darrell. « Vous êtes un membre de la Seconde Fondation ? Donnez-moi un peu d'eau à boire, »
supplia Antor.
« Allez chercher de l'eau, Turbor, »
dit Darrell,
« et rapportez la bouteille de whisky. »
Il répéta la question après avoir fait avaler une rasade de whisky et deux verres d'eau au jeune homme. Celui-ci parut se détendre.
« Oui, »
dit-il d'un ton las. « Je suis un membre de la seconde fondation, qui se trouve donc ici même, sur Terminus.
Oui.
Oui. Vous avez raison sur tous les points, docteur Darrell.
Bien.
Maintenant, expliquez-nous ce qui s'est passé au cours des 6 mois écoulés. Parlez.
Je voudrais dormir,
murmura Antor.
Plus tard. Maintenant, il faut parler.
Antor laissa échapper un soupir haché. Puis il se mit à parler à voix basse. Les mots s'enchaînaient à toute vitesse. Les autres se penchèrent pour ne rien perdre de ses paroles.
La situation devenait dangereuse. Nous savions que Terminus et ses physiciens commençaient à s'intéresser au schéma psychique et que la découverte du principe du brouilleur psychostatique n'était plus qu'une question de temps. Nous constations aussi une hostilité croissante à l'égard de la seconde fondation. Il fallait renverser cette tendance sans ruiner le plan Seldon. Nous avons tenté de prendre en main ce mouvement. Nous avons essayé de nous y intégrer. C'était une façon de détourner les soupçons et d'orienter vos efforts dans une autre direction. Afin de faire diversion, nous avons poussé Kalgan à entrer en guerre. C'est d'ailleurs dans ce but que j'ai envoyé Mun sur Kalgan. La maîtresse supposée de Stettin était des nôtres. Elle influait sur les actes de Mun dans un sens favorable à nos projets.
« Kalia est... »
s'écria Mun, mais Darrell lui imposa le silence d'un geste. Antor poursuivit, sans s'apercevoir de l'interruption.
Arcadia a suivi le mouvement. Nous n'avions pas compté sur son intervention. Nous ne pouvons tout de même pas tout prévoir. De sorte que Kalia l'a amené à se réfugier sur Trantor pour prévenir toute ingérence de sa part. C'est tout. Si ce n'est que nous avons perdu la partie.
Vous avez tenté de me convaincre de partir pour Trantor, non ?
Interrogea Darrell. Antor hocha la tête.
Je devais vous écarter de notre route. Vous nourrissiez alors un sentiment de triomphe grandissant qui ne pouvait avoir qu'une signification. Vous étiez en train de résoudre les dernières difficultés qui vous empêchaient encore de mettre au point le brouilleur psychostatique.
Pourquoi n'avez-vous pas influencé mon esprit, afin de pouvoir me contrôler ?
Je ne pouvais pas. Pas possible. J'avais des ordres, il fallait suivre le plan. Si j'avais improvisé, j'aurais faussé tous les calculs. Le plan n'indique que des probabilités, vous savez cela, comme le plan Seldon.
Il parlait d'une voix hachée, visiblement en proie à une profonde angoisse. Par moments, il en devenait presque incohérent. Sa tête se balançait de droite à gauche sous l'effet de la fièvre.
Nous avions affaire à des individus, pas à des groupes. Probabilité incertaine, trop difficile à suivre. En plus, en vous manipulant, quelqu'un d'autre aurait inventé l'appareil. Pas la peine, il fallait agir sur le temps. Plus de subtilité. Le plan du premier orateur en personne. Connaît pas tous les aspects de la situation, sauf pas marcher.
Ah !
Il s'effondra. Darrell le secoua rudement.
« Vous dormirez plus tard. Combien de membres comprend la Fondation ?»«
Quoi ? Pas tant que ça. Vous n'allez pas le croire. 50, c'est suffisant. »«
Et ils sont tous sur Terminus ?»«
5, 6, outre-monde, comme Kalia. J'ai sommeil. »
Il se secoua soudain, comme par un effort surhumain, et son élocution gagna en clarté. Il tentait un dernier effort pour se justifier, pour minimiser sa défaite.
« J'ai failli vous avoir à la fin. J'aurais éteint le générateur. On aurait pu vous arrêter. Vous auriez vu qui étaient les maîtres. Mais vous m'avez donné une fausse télécommande. Vous m'avez soupçonné dès le début. »
Et finalement, il s'endormit.